Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avant de partir en Grande-Bretagne pour suivre les hommages à la reine, cette question qu'on se pose ce matin sur Europe 1. Pourquoi la droite traditionnelle et l'extrême droite gagnent-elles de plus en plus de terrain en Europe? On s'est arrêté sur le cas de la Suède. Là-bas, on attend le résultat définitif des élections législatives demain. Les conservateurs et l'extrême droite du Parti démocrate, un temps jugé infréquentable, se sont alliés et ils font course en tête. Pour en parler, Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 est à Stockholm ce matin. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
En Suède, la gauche est au pouvoir depuis 8 ans. Alors comment, Alexandre, comment l'extrême droite a-t-elle pu devenir à ce point incontournable ?
Eh bien, c'est le fruit d'une longue entreprise de dédiabolisation débutée au milieu des années 2000 pour rompre avec les racines néo-nazies du parti. Les démocrates de Suède font leur entrée au Parlement en 2010 et depuis, le parti progresse d'élection en élection avec un fort discours anti-immigration. Et lors de ces législatives, la campagne a justement été dominée par cette question, tout comme celle de l'inflation et surtout de l'insécurité. Alors que la Suède a rejoint récemment le haut du classement des pays en Europe qui compte le plus d'homicides par nombre d'habitants. Alors politiquement, ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs qui juraient par le passé ne jamais faire d'alliance avec les démocrates de Suède, eh bien sont obligés aujourd'hui de composer avec les 20% du parti d'extrême droite pour former une coalition et revenir au pouvoir. Alors de là à entrer au gouvernement, rien n'est moins sûr car les autres partis de centre droit s'y opposent pour l'instant. Ce sera en tout cas l'objet d'âpres négociations et cela devrait prendre du temps. En 2018, la formation du gouvernement avait pris plus de 4 mois.
Merci Alexandre Chauveau, envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm.
Alors ce qui pousse dans le dos clairement les démocrates de Suède, hein, cette force politique que l'on qualifie d'extrême droite, mais bon, faudra affiner, on le fera tout à l'heure à 8h40, ce sont les questions d'immigration et de sécurité, et c'est aussi le cas en Italie, en Espagne et chez nous en France.
Oui, mais pas d'alliance entre LR et RN chez nous en France. Comment l'expliquer ? Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, est à l'invité d'Europe 1 ce matin.
Il y a une raison en France, je pense, parmi d'autres, hein, c'est que nous avons une élection présidentielle au suffrage universel direct, et donc l'union doit se faire au profit d'une personne qui sera présentée pour devenir chef de l'État avec de vrais pouvoirs.
Le mode de scrutin ne favorise pas ce type d'alliance.
Le système institutionnel, qui est très favorable à ce type de force politique, n'est pas favorable à ce type de coalition, même si elle peut avoir lieu. Alors que dans les pays que nous avons cités, que vous avez cités, l'Espagne, l'Italie ou la Suède, ce sont des systèmes parlementaristes qui reposent souvent sur un mode de scrutin et des coalitions plus appropriées pour ce genre de rapprochement.
Dominique Régnier, invité d'Europe Matin, il y a quelques minutes.
Voilà, un très entretien à retrouver en intégralité sur europe1.fr. Il est 8h04, jusqu'à 7 heures d'attente pour dire adieu à Elisabeth II depuis hier soir. Hein, les Écossais font preuve d'une dévotion exceptionnelle.
Oui, ils n'avaient qu'une seule nuit pour voir le cercueil royal et se recueillir et ils ne s'en sont pas privés. Bonjour Thibaut Hue.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Édimbourg. Vous avez passé la nuit auprès des sujets de Sa Majesté qui voulaient rendre hommage à la reine. Vous la voyez, vous, ce matin encore, cette ferveur écossaise ?
Eh oui, tout à fait. Édimbourg n'a pas dormi, ça semble presque irréel. Des milliers de personnes se tiennent en ce moment les unes derrière les autres et attendent de pénétrer dans la cathédrale Saint-Gilles. Elles ont attendu toute la nuit de longues heures, dans le froid sans presque bouger. Et pourtant, il fait à peine 10 degrés ici, mais ça n'a pas fait peur à Kim, un café à la main. Elle est ici depuis 4 heures du matin.
On est venu ici tôt pour faire la queue avant d'aller travailler. On veut voir la reine, on veut faire partie de ça, comme tout le monde ici. J'ai pris avec moi un manteau et un bonnet, comme ça j'ai bien chaud, je suis très bien. Et ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Attendre, c'est un temps très paisible pour moi. J'ai le temps de rassembler mes pensées.
Et après des heures d'attente, c'est un moment très intimiste avec le cercueil de la reine qui s'offre aux courageux. À la sortie de la cathédrale, j'ai croisé Kimberly, vêtue d'un long manteau noir et les larmes aux yeux.
C'est très émouvant et bien sûr c'est très silencieux. Je me sens tellement chanceuse d'avoir vécu lorsqu'elle était sur le trône. Et je sentais que je ne pouvais pas la laisser partir sans lui exprimer ma reconnaissance. Ici, bien sûr, c'est la reine des Écossais.
Et il ne reste plus que seulement quelques heures pour pouvoir apercevoir Elisabeth II. Elle quittera Édimbourg pour rejoindre Londres par avion en fin de journée.
Thibaut Hue en direct d'Édimbourg pour Europe 1. Justement, on part à Londres. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial dans la capitale britannique. Le cercueil de la reine passera la nuit à Buckingham Palace. Dès demain, les Londoniens pourront lui rendre un dernier hommage au palais de Westminster jusqu'aux obsèques lundi. On attend près d'1 million de personnes à Londres, Stéphane.
Oui, exactement. Et alors que le cercueil n'y sera donc acheminé que demain après-midi, des Britanniques viennent passer déjà la nuit devant Westminster Hall sur une chaise pliante. Le camping est interdit, avec de quoi manger et se couvrir pour être certain donc d'accéder à l'intérieur de l'édifice. Il faut dire que l'on attend ici, rappelle le Times, 750 000 personnes au moins pour venir rendre cet ultime hommage à Elisabeth II. Une file d'attente qui devrait s'allonger sur des kilomètres au cœur de la capitale. Une trentaine pariait hier un chauffeur de taxi qui s'attend à multiplier les courses ces prochains jours, d'où l'installation aussi de toilettes portables devant Westminster, des barrières naturellement, un dispositif de sécurité qui rappelle celui des aéroports avec la remise d'un bracelet à l'entrée qu'il faudra retirer à la sortie, aucune fleur, aucune bougie ou peluche, rien de tout cela ne pourra être déposé, pas question non plus de prendre des photos ou des vidéos avec son téléphone, chacun sera invité à garder le silence, à ne pas porter des vêtements avec des slogans politiques ou offensants, selon les directives qui ont été publiées hier soir.
Merci beaucoup Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
8h07, est-ce que nous sommes à un tournant dans le conflit ukrainien? Les forces russes continuent de reculer face à la contre-offensive de l'armée de Kiev.
Volodymyr Zelensky assure désormais que 6000 km² de terrain ont été récupérés, des villages de la région de Kharkiv au nord-est et autour de Kherson dans le sud-est. Question, comment une telle percée a-t-elle été possible ces derniers jours? Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Il s'avère que les Ukrainiens se sont notamment appuyés sur leurs renseignements américain.
Oui, la coopération s'est faite plus intense ces dernières semaines pour mieux préparer cette contre-offensive à l'œuvre depuis plusieurs jours. Une stratégie que Kiev voulait d'abord garder secrète avant finalement de décider de communiquer ses plans avec Washington. Des discussions constantes ont eu lieu au cours de l'été. Elles ont permis aux États-Unis de fournir des informations précises sur les faiblesses de l'armée russe sur le terrain. Mark Warner dirige la commission du renseignement du Sénat à Washington et pour lui, cette contre-offensive est la preuve de la force de la coopération militaire entre les deux pays.
Le renseignement qui travaille avec les Ukrainiens et nos amis britanniques a vraiment pris par surprise les Russes et Vladimir Poutine. On va voir maintenant comment ça va se passer, mais il est clair que Moscou s'attendait à une offensive dans le sud et pas dans le nord-est.
Depuis le début de la guerre, Washington voit clair dans le jeu de la Russie. C'est une arme extrêmement efficace pour l'Ukraine. Les renseignements américains ont déjà permis de frapper des postes de commandement russes et de tuer plusieurs généraux ennemis. Mais pour les officiels américains, cette contre-offensive démontre surtout une nouvelle fois les problèmes logistiques et de communication de la Russie qui minent son avancée depuis le début de la guerre.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Allez, on termine ce journal en culture avec un artiste plein d'humour.
André de Vambèze, illustrateur humoristique du début du 20e siècle, un inclassable à l'imagination débordante que le Petit Palais à Paris a décidé de mettre en lumière. Découverte Marie Jiquel.
Connaissez-vous le dirigeable au bus? Cette invention sortie de l'esprit farceur de Devambèze et couchée sur papier pourrait nous être utile avec les travaux parisiens. Annick Lemoine, la directrice du Petit Palais, a adoré travailler sur cet illustrateur, membre de la Société des artistes humoristes.
Il invente aussi de nouveaux moyens de transport, dont un certain dirigeable au bus qui va permettre de survoler la place de l'Opéra, encombrée par des embouteillages effrayants.
Les œuvres de Devambèze, centenaires pour la plupart, n'ont pas pris une ride. Son style rappelle même nos mangas, comme cette planche représentant les usagers du métro, une centaine de petits personnages aux expressions toutes différentes.
Devambèze est un observateur inlassable et il aime peindre la foule. On va retrouver ce goût pour la foule grouillant, tous ces petits personnages. Et à nouveau, c'est le témoignage de cette vie moderne. Le métro, c'est la modernité qu'il fascine et qu'il va prendre pour sujet, ce qui est quand même tout à fait original.
D'autres facéties attendent le visiteur, dessins sur vaisselle, illustrations jeunesse ou tableaux de la taille d'une main.
Marie Jiquel de Vambèze au Petit Palais à Paris, à découvrir jusqu'au 31 décembre avec votre radio Europe 1, évidemment.
Merci beaucoup Fanny Marceau. Dans un instant, restez avec nous Nicolas Dufour, que le directeur général de BPI France, la Banque publique d'investissement, est l'invité de Sonia Mabrouk.